Tout le monde se lève pour le slow, mis à part moi. Moi, je regarde. Et ça se roule des palos, pendant que comme un con, je garde les sacs à main et les manteaux.
Chantal Laurent.
Thomas Fersen, bonjour.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir pour découvrir votre nouvel album, Le Choix de la Reine, qui paraîtra vendredi chez Tôt ou Tard. D'abord, un mot sur ce titre intrigant, Le Choix de la Reine. Est-ce qu'il fait référence à votre pseudonyme, Fersen ?
Entre autres, effectivement, puisque Fersen était le supposé amant de la reine.
Marie-Antoinette.
Voilà, donc c'est un petit peu pour ça aussi que j'avais choisi ce pseudonyme il y a 40 ans.
Alors, Le Choix de la Reine est un album un peu spécial puisque vous y revisitez les chansons emblématiques de votre répertoire. Après 30 ans de carrière, pourquoi avez-vous eu envie de réexplorer, de réarranger ces titres ?
En fait, il y a deux ans, est arrivé le 30e anniversaire de la sortie de mon premier album qui s'intitulait Le Bal des Oiseaux.
Chez Tôt ou Tard ?
Ça n'existait pas encore, c'était Warner à l'époque.
D'accord.
Et donc, c'était en janvier 93. Et donc, bon, 30 ans, voilà, 30 ans, c'est vrai, ça peut représenter quelque chose quand même. Alors, j'en ai parlé à Vincent Frerbault, qui est mon compagnon de route depuis 87, donc avec qui nous avions fait ce premier album, et les suivants, et encore celui-là. Donc, parce que je lui ai dit, écoute, si jamais on faisait un anniversaire, on le fête tous les deux, je ne vais pas le fêter tout seul. Et donc, on s'est mis d'accord sur le fait de confier des chansons, mais de les confier toutes nues à un réalisateur qui aurait une proposition artistique absolument radicale et originale pour que ce soit une véritable création. Puis après, j'ai eu l'idée d'y ajouter les textes qui sont extraits de mon livre, qui sont des poèmes en vers, enfin issus d'un grand monologue en vers, pour donner une image de ce que je suis aujourd'hui. Voilà, donc c'est un peu... Voilà, une sorte de panorama, quoi.
Alors, vous avez fait appel à un magicien des arrangements et de la réalisation, Clément Ducol, qui a signé avec sa compagne Camille la comédie musicale de Jacques Audiard, Emilia Pérez. C'est quoi la griffe Ducol ?
D'abord, c'est quelqu'un qui a une formation classique très rigoureuse, puisqu'il vient du CNSM de Lyon, en tant que percussionniste, mais aussi il a fait des classes d'écriture. Donc, il a sa patte à lui, souvent, c'est qu'il a quelque chose qui relève de la maturité. Il épure les chansons et en restitue l'essentiel à travers ses arrangements. Et ça, c'était quelque chose qu'on voulait avec Vincent, qui nous plaisait beaucoup.
Vous dites qu'il sait déshabiller une chanson.
Oui. Et ça nous plaisait beaucoup parce que je suis très orienté sur le texte depuis longtemps, parce que je suis dans la narration. C'est quelque chose qui s'est affirmé chez moi progressivement. Et puis maintenant, je suis carrément à écrire des chansons de 275 pages. Donc, c'est dire que ça me préoccupe.
Oui, parce que vous aviez donné carte blanche à Clément Ducol, mais avec une condition, que les textes soient mis en avant.
Voilà.
Donc, en lumière, en fait.
Exactement. Donc on savait qu'avec justement cette capacité qu'il avait à aller à l'essentiel, que la voix, le texte serait en avant. Et c'était important pour nous, parce que je pense que ça relève un peu de mon identité. Voilà. On pensait qu'il y avait une cohérence. Et c'est ce qui s'est passé. Il a eu l'origine. D'abord, la reine, c'est un peu lui aussi, puisque c'est lui qui a choisi les chansons. On l'a laissé choisir les chansons qu'il avait envie de traiter. Et il a eu l'idée, donc, de me faire accompagner par le trio SR9, qui est un trio de percussionnistes, qui est aussi issu du CNSM de Lyon. Tout ça, c'est une affaire régionale.
Et qu'est-ce que ce trio de percussionnistes apporte de nouveau à ces morceaux anciens ?
Alors, ce sont des instruments, les percussions, on peut penser que c'est des instruments qui peuvent être très doux. Hein. Alors, c'est essentiellement pour ce disque les claviers, c'est-à-dire marimba, glockenspiel, vibraphone et piano préparé. Et qu'est-ce qu'il y a ? En fait, Vous savez, ce sont des instruments qui ont des vibrations étranges et longues, qui résonnent longtemps dans un espace théâtral. Et moi, tout de suite, j'ai senti qu'elles étaient très adaptées pour mon répertoire, qu'elles allaient augmenter ces vibrations, l'irréalité de mes personnages et de mes histoires. Donc, voilà, j'ai tout de suite été emballé. J'ai eu aucun doute. Il n'y a pas eu d'inquiétude.
Ça s'entend pas dans mon phrasé que je suis blasé. Blasé de tout, blasé de la vie, même plus envie. Ne serait-ce que d'écouter de la zik sur mon plumard. C'est pourtant un plaisir basique, mais j'en ai marre. C'est comme la nuit des morts vivants quand je le revois. Je finis par m'endormir devant, je l'ai vu 10 fois. J'attends d'avoir les poils qui se dressent inutilement. Mes poils, plus rien ne les intéresse actuellement. Je suis blasé, je suis déprimé, je vais me suicider. À table, l'ambiance est plombée, pourquoi tu boudes? Ta tête ne va pas tomber, enlève tes coudes. Papa voudrait que je me cultive, l'espoir fait vivre. Et tous les ans, pour mon anniv, il m'offre un livre. Encore un pavé comme cadeau d'Émile Zola. Maman a refait son gâteau au chocolat. Et j'ai soufflé sur les bougies sans énergie. J'en ai éteint que 3 sur 16 super balèzes. Je suis blasé, je suis déprimé, je vais me suicider. En ce moment, j'aimerais beaucoup avoir un rat. Le porteur est sur mon cou et dans mes bras. Ça me ferait un compagnon quand tout me saoule. Un rat c'est laid, mais c'est mignon. Un rat c'est cool. Avant j'ai eu un poisson rouge, mais il est mort. Au début c'est marrant, ça bouge, je suis d'accord. Il nage et couche sur le flanc, puis à l'envers. Il est passé de rouge à blanc, de blanc à vert. Je suis blasé, je suis déprimé, je vais me suicider.
Thomas Fersen, Blasé est la seule chanson inédite de l'album. Elle s'accompagne d'un clip réalisé par votre ami Vincent Delerme. Comment est né ce morceau que sert à merveille votre voix éraillée?
J'étais dans l'écriture du livre et je ne faisais plus de chansons. C'est la seule chanson que j'ai écrite depuis 5 ans. Mais cette phrase est venue à mon esprit. Ça s'entend pas dans mon phrasé que je suis blasé. Alors, dans cette phrase-là, dans la césure de cet alexandrin au 8e pied, j'aime beaucoup les octosyllabes, il y avait donc cette irrégularité, en quelque sorte. Et il y avait quelque chose qui dépeignait déjà le caractère du personnage. J'avais déjà la musicalité, le ton, pour écrire la chanson, donc je l'ai écrite. Alors que, comme je vous le dis, je n'en écrivais plus depuis déjà plusieurs mois et que je n'en ai pas réécrit depuis.
Mais est-ce qu'il y a dedans des réminiscences de votre adolescence, du spleen de l'adolescence ou pas? Ou c'est complètement imaginé?
Oui, j'ai quelques photos matons de moi pendant mon adolescence où on voit qu'effectivement je dois être un peu envahi par le spleen, j'ai l'air assez déprimé, mais j'ai pas le souvenir d'avoir été blasé. Et pourtant, c'est un trait de caractère quand même chez les adolescents qui est assez fréquent, répandu. On a l'impression d'avoir tout vu, tout entendu à un moment.
Vous dites que c'est une période pendant laquelle vous n'écriviez plus de chansons. En 2023, dans une interview à Télérama, vous avez dit « À un moment, le public écoute surtout les titres des débuts. Quel est l'intérêt d'en écrire encore ?» Vous pensez vraiment que le public qui vous aime, qui vous suit depuis longtemps, n'attend pas, n'espère pas de nouvelles chansons? Est-ce que vous n'étiez pas un peu déprimé à l'époque?
Pas du tout, mais au contraire, je suis plutôt conscient que, enfin du moins de la problématique qu'il y a à construire un spectacle entre les chansons nouvelles et les chansons du répertoire qui ne cessent d'augmenter avec le temps et à prendre de plus en plus de place. Et moi, je ne suis pas du genre à aimer frustrer les gens de leur plaisir à écouter des chansons qui les ont accompagnés dans leur existence. Je trouve que c'est normal. Ça fait partie du contrat qu'on a passé ensemble, tacitement. Donc, effectivement, je me dis à quoi ça sert d'aller grossir la troupe de mes chansons. Et puis aussi, pour dire la vérité, quand est arrivé le Covid, j'ai eu cette cette révélation, parce que ça fait longtemps que je suis tourmenté par l'idée d'écrire un livre, mais je ne trouvais pas le style. Je me disais, mais je vais pas faire un autre style que mon style. Jusqu'au jour où j'ai eu cette idée simple d'écrire une grande chanson, puisque mon style s'est déterminé avec le temps, et d'écrire une grande chanson de 275 pages, et d'y voir là des perspectives nouvelles, un enthousiasme nouveau, une fraîcheur que je n'avais plus. Alors j'ai de l'expérience en tant qu'auteur de chansons, mais j'avais plus cette fraîcheur extraordinaire. J'étais d'un seul coup novice. Et ça m'a vraiment enthousiasmé et je me suis orienté vers cette voie et je ne l'ai pas quitté car je suis encore en train d'écrire un autre livre. Là.
On va y revenir.
Une chauve-souris émet un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glisse sur lui. Une chauve-souris émet un parapluie, émet un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui, elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris émet un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle de nuit qui boulevard Saint-Marcel le nourrissait de pluie. Le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servi de balancier, un vendeur de cravate le prit comme associé. Puis il se déplia sur une permanente, puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit, une chauve-souris émet un parapluie. Elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir où elle mourait d'ennui pendant que le parapluie venait au Père Lachaise, une vie de bâton de chaise.
La chauve-souris, les malheurs du lion, le bal des oiseaux, le chaboté, les papillons, le rat, le poisson rouge, l'araignée dans sa galerie. Thomas Fersen, vos chansons sont un véritable bestiaire. Pourquoi les animaux sont-ils omniprésents dans votre répertoire ?
Alors j'ai quelques imageries dans mes mains pour raconter des histoires. Cette imagerie-là, effectivement, en est une. Mais il y en a d'autres. Il y a la mort, il y a les objets, les accessoires, les parapluies, les chapeaux.
Les prénoms.
Les complets marrons, les prénoms de femmes. Voilà, j'ai beaucoup. Quand on écrit des chansons, on doit faire un récit très court, planter les personnages rapidement et on se sert des imageries. Voilà. Donc, naturellement, j'ai commencé par utiliser l'imagerie animale.
Et vous aimez beaucoup les métaphores animales aussi.
J'aime les métaphores en général. Oui, effectivement.
Parce que celle-là, dans l'album, j'ai relevé dans le chaboté, vous chanter, moi qui avais le bourdon, j'ai la chair de poule et même la chair de dindon. Et j'en cite deux autres extraits de la chauve-souris, riant comme une baleine, pleurant comme une madeleine.
Oui, alors ce sont des expressions, la ruralité est très présente dans les expressions françaises. Et je pense, moi j'ai ma petite explication à ça, c'est que ça apporte un peu de campagne, de verdure dans la ville. Parce que en ville, on utilise beaucoup ça fait partie du langage.
Chacune de vos chansons raconte une histoire et sonne souvent comme une fable. Est-ce que vous vous considérez à la fois comme un conteur et un artisan qui travaille ses textes jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement ciselés ?
Oui, je travaille jusqu'à avoir à peu près ce sentiment, bien qu'il y ait toujours une imperfection qui, dans mes chansons qui leur donne de l'humanité.
Trouver le mot juste, la rime parfaite, le second degré qui ravira votre public, c'est le moment qui vous procure le plus de satisfaction dans ce processus créatif ?
Alors, c'est jubilatoire pour moi d'écrire. Donc, c'est un état que j'aime, quoi qu'il arrive. Même si je ne devais pas être publié, je crois que je continuerai. Je vois bien mon comportement. Dès que j'ai une contrariété, un stress ou une attente à supporter, je me réfugie dans l'écriture, quel que soit l'endroit où je me trouve. C'est un réflexe chez moi.
Et d'où vient votre goût de raconter des histoires ? Fabriquer des histoires.
J'ai été sensible d'abord au langage, et au langage à travers des chansons de corps de garde quand j'étais enfant, parce que j'étais ébloui par cette forme d'un seul coup qui avait percuté mon jeune cerveau.
Et comment vous avez découvert les chansons de corps de garde ?
Quand je suis arrivé à Paris, parce que mes parents habitaient en banlieue au départ, donc on était dans une tour, je suis né en 63, en janvier 63, on était dans une tour à Sucy-en-Brie qui regardait la campagne. Et à cette époque, il n'y avait pas de gros mots autour de moi. Et je les ai découverts quand mes parents sont venus s'installer dans le 20e. J'ai à la fois découvert la langue verte et la chanson paillarde parce qu'au cours préparatoire, un élève est monté sur sa table et il a chanté une chanson d'obscénité. Et ce vent de liberté, cette polissonnerie, j'y étais extrêmement sensible. Je veux dire, ce réflexe de désobéissance m'a tout à fait séduit. Voilà. Donc j'ai commencé par retenir ces chansons, d'ailleurs, qui étaient inscrites dans l'oralité, jamais écrites. Et qui ont mémorisé spontanément. C'était des chansons tellement bien conçues, tellement bien faites par l'anonyme, qu'on les retenait spontanément. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quand même une certaine noblesse, en dépit des cochonneries qui sont racontées. Il y a quand même une espèce de force quand même dans la langue. Et à partir de là, c'est peut-être la première fois que j'ai senti, sans évidemment pouvoir le nommer, ce goût pour le langage. Il était aussi présent dans ma famille, parce que mon père s'exprimait très bien et choisissait ses mots. Et je sentais le pouvoir qu'il avait sur moi, par exemple, avec son vocabulaire et sa langue. Donc, voilà, j'ai été exposé au langage dans ma vie et j'y ai pris goût.
Et le côté théâtral dans vos chansons ?
Alors, le théâtre, il se trouve que derrière la porte de ma chambre, parce que j'avais la chance d'avoir une chambre pour moi, derrière la porte de ma chambre, j'ai inventé le théâtre, sans savoir ce que je faisais, sans savoir ce que c'était, sans être jamais allé au théâtre et sans nommer mon activité. Je m'inventais des scènes qui étaient tirées de mon imagination et aussi des films et des livres que je lisais, parce que je lisais beaucoup quand j'étais enfant. Et mon polochon interprétait tous les seconds rôles, n'est-ce pas ? Et tous les deux, nous jouions les scènes que j'inventais en improvisant.
Alors aujourd'hui, est-ce que ce sont les mots qui vous inspirent la musique ? Est-ce que ce sont les mots qui viennent en premier, avant la mélodie ?
Absolument, et je pense que c'est une des caractéristiques de la langue française, c'est qu'elle est très musicale. Parfois les gens disent le français ça swing pas. Non, c'est tout le contraire. Le français est une langue musicale, mais qui a sa propre musicalité, qui entend être respectée. On peut pas la faire rentrer au chausse-pied dans un nombre de pieds qui ne lui conviennent pas, ni un rythme qui ne lui convient pas. Ce sont les langues latines qui sont comme ça, elles sont musicales, elles sont chantantes. Et donc, effectivement, j'ai comme ça, pour la plupart de mes chansons, à part de rares exceptions comme Deux Pieds, je commence par faire le texte et à écouter la musique qu'il y a dans ce texte. Et je vais la rechercher après cette musique sur le piano, la guitare.
Caserne qui me gouverne pour flâner dans la rue avec d'autres recrues dans nos manteaux d'hiver. Papillon vert, c'est au cœur de la ville, la vie civile que nos soldats sont bus. Avec en vue les bourgeois enchantés, le seul les argentés d'aller faire les boutiques. Papillon chic, les papillons, les papillons. Les papillons, les papillons, les papillons. Les papillons, les papillons. Les papillons, les papillons, les papillons. Le diable nous emporte avec les feuilles mortes au grand bal des fantômes. Papillons jaunes ou dans quelques manèges sous les flocons de neige angéliques et mouillants. Papillons blancs, la cigarette au bec, je poursuis ma cueillette en regardant descendre un papillon de cendre dans l'anonymat d'une salle de cinéma parmi l'autre poussière en habit de lumière. Les papillons, 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 les papillons.
Les papillons, Thomas Fersen, extrait de l'album Le choix de la reine qui sortira ce vendredi. En écoutant Les papillons, j'ai pensé au petit papier de Serge Gainsbourg que chantait Régine. Est-ce que Gainsbourg fait partie de votre panthéon ou pas du tout ?
Ah bah, écoutez, le panthéon, c'est un peu écrasant, je trouve. Alors, c'est des artistes que j'aime. Il y a beaucoup d'artistes qui ont écrit des magnifiques chansons en français.
Et Gainsbourg en fait partie ou pas ?
En fait partie, oui. Bien sûr, il a écrit des chansons merveilleuses que j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter. Quand j'ai découvert la chanson française, assez tard, puisque j'ai commencé par écouter du rock, j'écoutais les disques de ma sœur. Et puis, quand je me suis mis à écrire des chansons en français, j'étais intrigué, intéressé par ce qu'avaient fait les autres. Donc, j'ai découvert Trenet, j'ai découvert Gainsbourg. Bon, je connaissais quand même des choses que tout le monde connaissait, bien sûr. Brassens, Brel, Barbara.
Votre nouvel album, tout à l'heure, je disais qu'il était un peu spécial. En fait, il est doublement spécial parce qu'il mêle chansons et extraits donc de votre livre En vers dévergondé, Dieu sur Terre, qui est paru en 2023 aux éditions de l'Iconoclaste. Et le tout s'enchaîne avec une fluidité parfaite quand on écoute l'album d'un seul trait. Les concerts littéraires, les lectures musicales connaissent actuellement un succès croissant. Comment vous l'expliquez, ce succès des concerts littéraires, vous qui, depuis longtemps, émaillez vos concerts de petits textes.
J'ai commencé par dire des chansons dont je n'avais pas écrit de la musique. Ça a commencé comme ça. J'avais écrit un texte, c'était Les Malheurs du Lion à l'époque, qui est dans cet album. Et je venais de finir le texte, mais j'avais pas fait la musique. J'ai pas pu résister le soir au concert de le dire parce que c'était une farce. Voilà. Et le public s'est amusé avec moi. Donc j'ai eu envie de recommencer. Et puis après, je me suis mis à écrire des textes qui n'étaient plus destinés à être mis en musique. C'était aussi une prise de liberté parce que la chanson, c'est quand même très rigoureux comme structure. Et donc, j'ai commencé par faire ça. Alors, c'était des petits sketchs fantaisistes qui mettaient un peu d'air aussi dans le spectacle de chansons. Les gens aiment beaucoup ce moment-là. Bon. Et donc, c'est ça aussi qui m'a mis le pied à l'étrier pour écrire cette biographie fictive de mon personnage de chanson. Mon adolescent qui déambule dans mon répertoire depuis longtemps maintenant. J'ai écrit sa vie. Évidemment, je me suis inspiré de ma propre existence. Mais pour répondre à votre question, je ne sais pas, parce que j'étais quand même très dubitatif. J'étais fort de cette expérience.
Pour vous ?
C'est-à-dire que quand je savais que les gens venant me voir, j'avais prévenu les musiciens pour la première. Attention, il va y avoir peut-être un moment de stupeur. Parce que je parle quand même au départ pendant, je ne sais pas, avant la première chanson, 20 minutes. Et puis il y avait dans le spectacle à peu près, il n'y avait que 4 chansons. Donc c'est très peu quand même, quand on achète un billet pour aller voir un chanteur. Et bien ça s'est bien passé. Parce qu'en fait, le principal, c'est d'embarquer les gens quelque part. Voilà, c'est ça l'idée. C'est d'arriver à montrer l'invisible dans l'espace théâtral, à le regarder ensemble, le public et moi. Cet invisible qui est amené par le mot, hein, qui est amené par le mot et par le son. Voilà, c'est ça l'idée. En fait, c'est ça qu'on vient chercher dans ce moment de communion qui est le spectacle vivant. C'est ça, c'est essayer de voir l'invisible ensemble.
Est-ce que ça vous a fait regretter de ne pas avoir franchi le pas plus tôt, de ne pas avoir pris la plume plus tôt, vous qui rêviez de devenir écrivain ?
Non, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai fait comme ça. J'ai absolument aucun regret de cette sorte. D'abord, je savais que j'ai suivi un chemin de construction qui était possible. Voilà, j'ai pas eu plus de choix que ça, vous savez.
Thomas Fersen, on va écouter Clou à l'arrière de la voiture, nouvel extrait de son dernier album À l'évidence. Vous nous expliquerez après pourquoi vous avez choisi Clou dans la playlist RFI.
Sérieux.
la pluie qui tombe sur les deux joues de maman. Je m'en détourne, c'est plus sûr, pour éviter justement que la pluie ne tombe sur mes joies.
À l'arrière de la voiture, Clou en playlist RFI ce mois-ci. Clou est en tournée en France et sera au Trianon le 19 mars. Thomas Fersen, qu'est-ce qui vous touche chez elle ?
Je travaille avec un musicien depuis 30 ans qui s'appelle Pierre Sangras et son fils se produit sous le nom d'artiste Rature. Et je suis allé le voir, j'allais le voir de temps en temps et une fois, Clou est venu chanter avec lui. Je l'ai découverte comme ça. Et puis après, j'ai découvert aussi qu'elle était chez Tôt ou Tard.
Votre label, enfin, dans lequel vous revenez pour ce
nouvel album. Dans lequel je suis revenu après une fugue, oui. Et donc voilà, j'aime beaucoup sa sensibilité, sa voix, ce qui dégage de sa musique quand je l'écoute. Voilà, ça me fait plaisir aussi parce qu'elle est dans ce label que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'affection. Il y a vraiment une ambiance très, très, très fraternelle et chaleureuse dans ce label. C'est pas un label comme les autres.
Vous allez entamer le 19 mars une tournée dans toute la France qui s'achèvera le 5 juin au Théâtre du Châtelet à Paris. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette tournée ? Comment vous vous sentez quand vous êtes sur scène ?
Ben, ce n'est que le début parce qu'effectivement là, on a annoncé les dates jusqu'à l'été et on sera le 5 juin au Châtelet. Mais après, elle va continuer en 2025-2026 jusqu'à l'été suivant. Bah, j'ai hâte, évidemment, parce que je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, très sensible aux vibrations de ces instruments et je sens déjà que on va venir avec une magie dans ces endroits. Voilà. Elle est déjà prête.
Merci beaucoup, Thomas Fersen, d'avoir été notre invité et de nous avoir fait découvrir avant sa sortie vendredi votre nouvel album, Le Choix de la Reine. Merci à Guillaume Buffet qui a réalisé l'émission et à Cécile Lavolo et Raphaël Pluxva qui l'ont coordonné. À demain et d'ici là, portez-vous bien.